bienvenue dans cette émission. La journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août, est placée cette année sous le thème national « Engagement et participation de la jeunesse au développement de la RDC à l'horizon 2050 ». À cette occasion, le ministre congolais de la jeunesse et nouvelle citoyenneté s'est dit très fier des réalisations sur fonds propres des progrès dans son ministère, entre autres la mise en place des brigades agricoles et des fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Billy Kambale a également annoncé qu'un projet de loi qui suggère la formation militaire obligatoire pour tout jeune après l'école secondaire a été élaboré. Cette formation militaire, précise-t-il, sera de 6 mois et devra être imposée à tous les jeunes avant l'entrée à l'université. Que pensez-vous de ces initiatives et comment les jeunes peuvent-ils contribuer au développement de la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons justement le ministre Billy Kambale. Il est ministre en charge de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du gouvernement central. Bonsoir, monsieur le ministre Billy Kambale.
Bonsoir.
Maître Daniel Mbaou, député national et membre de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi constitutionnaliste et secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et des droits humains. Bonsoir, maître Daniel Mbaou.
Bonsoir.
Et Madame Liliane Iranga, présidente de la Fondation Liliane Iranga, une structure qui milite en faveur du genre et de la jeunesse en général et des jeunes des milieux défavorisés en particulier. Bonsoir Madame Liliane Iranga.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Kasaï central, le ministre provincial de la jeunesse invite les jeunes à accompagner l'action gouvernementale. Tarsis Mouzeke a lancé cette invitation en marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Il les encourage notamment aux travaux des cantonnages manuels et autres en vue de prêter main forte à l'exécutif provincial. Tarsis Mouzeke est au micro de Blaise Nongala Mayanda.
En marge de cette journée, nous invitons les jeunes à pouvoir réfléchir ensemble à une action mondiale que les jeunes peuvent mener. Prenons par exemple, dernièrement, nous avons été très contents d'initiatives prises par les jeunes des différents quartiers de la ville de Kananga qui se sont mis debout pour pouvoir assainir les avenues, les rues, leurs quartiers. À leur propre initiative, c'est très encourageant. Les jeunes ne doivent pas seulement croiser les bras, croire que tout doit venir du gouvernement, les autorités s'occupent déjà les jeunes. Les jeunes se retrouvent dans tous les secteurs de la vie. Vous avez la santé, les jeunes sont dedans, on s'occupe de la santé des jeunes. Vous avez l'éducation, les écoles viennent de reprendre, c'est plein de jeunes. Même au sport, ce sont des jeunes partout, partout. Il y a des centres de formation, à la division des affaires sociales, vous y trouverez qu'il y a des jeunes dont on s'occupe de leur formation.
Billy Kambale, ministre en charge de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du gouvernement central, quel sens vous accordez à cette journée internationale dédiée à la jeunesse?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour moi, cette journée rappelle le rôle central et moteur que doit jouer la jeunesse. Et donc, cette journée, nous l'avons passée dans la méditation. Et c'est le sens même du discours que j'ai tenu hier devant les jeunes pour leur rappeler le rôle qu'ils doivent jouer pour le développement de notre pays. Je voudrais signaler que toutes les initiatives annoncées sont en cours. Il n'y a aucune initiative qui y ait un projet, non. Toutes les initiatives sont en cours et nous pensons qu'avec l'accompagnement non seulement du président de la République, du Premier ministre et de toute l'équipe gouvernementale, mais aussi des jeunes qui sont les premiers concernés, nous allons réaliser ces rêves que nous partageons avec la population.
Le thème national de cette journée est énoncé ainsi, engagement et participation de la jeunesse au développement de la RDC à l'horizon 2050. Monsieur le ministre, est-ce un simple slogan comme c'est l'habitude dans ces pays ou c'est plutôt un thème porteur des messages et des sens?
Non, ce thème, comme vous le remarquez, c'est un thème qui se base sur l'action qui est déjà menée. On parlait tout à l'heure des brigades agricoles. Au-delà d'être une formation à courte durée dans les domaines agricoles, c'est en réalité un projet qui peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire ainsi qu'à l'exportation de nos produits agricoles. C'est déjà ça le développement. la jeunesse qui est dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, malheureusement, qui ne sont pas communiquées. Et vous avez des jeunes comme Pascal Tani qui a inventé un procédé qu'on appelle Scolab, où les élèves peuvent apprendre en ligne et sur leur tablette. Donc, vous avez beaucoup de jeunes, je n'oublierai pas ici Madame Sandrine Mubenga, des États-Unis, qui s'est spécialisée dans les nouvelles technologies, qui est aujourd'hui une jeune dame respectable et qui est professeure aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes qui se comptent par milliers dans notre société. Moi, je suis arrivé à Goma lors de la campagne électorale, j'ai vu les initiatives des jeunes qui fabriquent la craie, par exemple. Ces jeunes doivent être soutenus. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce projet est en train d'être implémenté en collaboration avec le ministère des Finances pour voir comment, parce qu'aujourd'hui, se pose un sérieux problème dans notre société, les jeunes qui terminent l'université ou les jeunes qui sont au chômage, mais qui peuvent avoir des projets bancables, qui peuvent être soutenus par les banques, mais quand ils arrivent à la banque, on leur demande des hypothèques, des maisons. Mais comment un jeune qui vient fraîchement de l'université ou qui est au chômage va trouver un immeuble à hypothéquer? Voilà tout un tas de contraintes que nous sommes en train de vouloir résoudre par rapport à ces fonds spéciaux pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, qui non seulement sera alimenté par la dotation de l'État, mais aussi des quotités que nous allons percevoir sur les sociétés brassicoles, les sociétés tabacicoles, ainsi que les sociétés des publicités.
Voilà, monsieur le ministre, vous évoquez les efforts qui sont fournis par votre ministère à l'endroit de la jeunesse congolaise, notamment la mise en place de cette brigade agricole et du fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier ce qu'a été ou bien ce qu'est l'apport de cette brigade agricole et puis de ces fonds dans l'épanouissement des jeunes en RDC? Parce que vous dites que c'est des projets qui sont en cours. Est-ce qu'on peut déjà quantifier l'apport, n'est-ce pas, de ces projets dans l'épanouissement de la jeunesse, ou c'est encore trop tôt?
Non, c'est encore trop tôt. Je pense que si je me lance ici dans des statistiques, je serai un menteur et on ne peut pas gouverner le pays dans le mensonge. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Aujourd'hui, pour mettre en place un fonds, par exemple, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises avec le ministère des Finances pour voir la manière avec laquelle nous allons percevoir ces quotités, pour voir qu'est-ce que l'État dispose, notamment dans le budget qui est en discussion maintenant, le budget 2021, le plan qui est le nôtre. Nous avons déjà inscrit plus de 1 500 000 dollars. Qui sera la quotité de l'État volé dans ce fonds? Nous sommes en discussion avec le ministère des Finances pour voir dans quelle mesure ou par quel mécanisme ces fonds peuvent être perçus, notamment sur les quotités qui seront perçues sur les sociétés brassicoles. Donc, en clair, c'est l'année prochaine que nous allons dire exactement qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à ces fonds. Bien entendu, il faut des structures, il faut une ordonnance présidentielle. Avec les directeurs des cabinets à intérim du président de la République, nous sommes déjà largement avancés en ce qui concerne les personnalités qui doivent piloter ces fonds, parce qu'il faut que ce soit des personnalités d'abord qui ont une moralité irréprochable, parce que ces fonds sont destinés essentiellement à la jeunesse. Et donc, nous étions d'abord à ce niveau-là, et je pense que dans les semaines qui suivent, nous allons déjà mettre en pratique tout cela. S'agissant des brigades agricoles, est-ce qu'il faut quantifier aujourd'hui? Non. La brigade des Impuru que nous avons lancée au début de l'année, c'était d'abord une brigade pilote. Vous savez, tous ces projets sont en train d'être conçus. On ne peut pas s'hasarder à aller dans l'application extensive d'un projet lorsqu'on ne l'a pas encore implémenté. Nous étions d'abord à l'étape de l'implémentation. Au niveau des Impuru, là où nous avons lancé la brigade agricole, nous avons pris juste 30 hectares avec un échantillon de 45 jeunes, un tracteur s'il vous plaît, que nous avons loué parce que nous n'avons pas de matériel. Nous avons produit exactement 10 tonnes de maïs sur les 30 hectares. Nous avons produit 10 tonnes des patates douces. Il y a 27 hectares toujours qui sont sur ces sites-là de manioc. Donc, nous avons conclu avec nos experts que l'expérience était concluante parce que les 45 jeunes ont été formés et ils sont là. Maintenant, avec l'accompagnement du président de la République, nous venons d'acquérir du matériel propre à nous. Nous avons des tracteurs haut de gamme que nous avons acquis. Nous pensons que c'est l'année prochaine que nous allons donner les statistiques réelles, quantifiables, vérifiables sur le terrain
On espère que l'année prochaine, lors de l'évaluation, n'est-ce pas, de ces projets, on vous aura encore dans cette émission, monsieur le ministre. Mais il y a aussi, hein, il faut le savoir, et ça c'est des notoriétés publiques, il y a beaucoup d'attentes de la part de la jeunesse congolaise à l'endroit de l'État congolais au sujet notamment de la question de l'emploi. Et vous avez évoqué beaucoup de projets et tout ça c'est de façon éparse, hein, de façon dispersée. Est-ce que il y a une politique dans ces pays, il y a une politique d'emploi, et surtout l'emploi des jeunes ici en RDC, monsieur le ministre.
Au niveau du ministère de l'emploi et la prévention sociale, il y a un projet avec la Banque mondiale, le projet Foyen, où il y a l'emploi des jeunes. Avec le ministre de la formation professionnelle, nous venons aussi de lancer le projet Kin Emploi, avec plus de 500 jeunes, un projet de 10 millions de dollars, qui, dans les semaines à venir, après que l'État ait payé la contrepartie, qui est minime d'ailleurs de 200 000 dollars, nous allons lancer ces projets-là pour Kin Emploi, avec le ministère de la formation professionnelle. Nous avons aussi un projet avec le ministère de petites et moyennes entreprises, de 100 millions de dollars de la Banque mondiale, où nous allons appuyer l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je suis en train de dire à nos jeunes, arrêtons de rêver. Nous devons nous mettre au travail. Et l'État est là pour accompagner. J'ai dit, et je le répète, c'est au niveau de l'entrepreneuriat que nous pourrons le plus possible résorber le chômage des jeunes. Parce que si aujourd'hui nous disons tout le monde doit travailler dans l'administration publique, aujourd'hui l'administration publique est sursaturée avec plus de 1 500 000 fonctionnaires. C'est énorme et le budget de l'État n'est pas capable de subvenir aux besoins de nos fonctionnaires. Il faut voir la précarité dans laquelle ils vivent. Donc moi je ne peux pas continuer à faire rêver les gens à aller dans l'administration publique.
Merci,
je pense que là où nous pouvons le plus possible engager beaucoup de jeunes et les autonomiser, c'est au niveau des entrepreneurs des jeunes.
Merci.
Voilà pourquoi nous avons lancé tous ces différents projets pour un tant soit peu contribuer à l'emploi de nos jeunes.
Merci Maître Daniel Mbaou, député national et membre de la commission PAJ de l'Assemblée nationale et aussi constitutionnaliste et secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et des droits humains. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette journée internationale de la jeunesse?
Ben, je pourrais simplement dire que le Congo est constitué principalement d'une population jeune dont l'âge varie de 15 à 35 ans. Il est évident qu'une telle journée soit célébrée, mais avec des projections positives et intégratives en faveur de cette jeunesse. À cet égard, j'estime la participation, surtout politique des jeunes, dans les responsabilités publiques s'avère impérative. Vous savez, il y a une étude de l'Union interparlementaire qui renseigne que les personnes âgées de 20 à 44 ans constituent 57%. Au niveau, on parle même de 62% de la population mondiale en âge de voter. Mais seulement 26 qui sont élus et qui occupent des postes électifs. Donc j'estime à ce jour, les grands défis de la jeunesse, c'est l'autonomisation et son expertisation pour que celle-ci puisse participer activement à la gestion de la chose publique. Elle doit se doter, à mon avis, des outils et devant lui permettre d'assurer son intégration d'abord professionnelle. Et là, l'importance est de la proposition de loi que j'ai déposée sur l'institution d'un service militaire obligatoire.
Voilà, monsieur le député, justement, au sujet de cette proposition de loi sur le service militaire obligatoire pour les jeunes, qu'est-ce que vous visez à travers cette démarche que vous avez commencé à mener à l'Assemblée nationale?
Bon, globalement, j'ai fait d'abord un état des lieux de la participation politique et professionnelle. Cet état des lieux me paraît mitigé. Il n'existe pas en réalité au Congo, contrairement à ce que dit le ministre, des véritables politiques publiques sous la prise en charge des jeunes, surtout des jeunes déshéritées, et sur la participation des jeunes dans la responsabilité publique. C'est comme ça que nous avons estimé pour assurer la préparation professionnelle des jeunes et leur doter des outils capables à pouvoir permettre à la jeunesse de mettre son point de vue sur la place publique. Nous avons estimé proposer cette loi qui apporte plusieurs innovations, notamment l'universalisation et l'impérativité du service militaire obligatoire durant une période maximale de 12 mois. Pour les citoyens et citoyennes âgés de 18 à 25 ans. Et cette loi va renforcer l'appel à la préparation à la défense et à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre notre armée et la jeunesse. Ça va aussi favoriser la participation des jeunes aux responsabilités d'État Et puis, on l'a, le ministre l'a mentionné, il faut aussi utiliser utilement les jeunes désœuvrés aux activités de production économique, ainsi qu'à la création des richesses. En fait, à mon avis, je considère cette loi comme un véritable outil de reconversion qui permet au gouvernement congolais, s'il le veut bien, de répondre aux préoccupations relatives au chômage des jeunes et au phénomène de Luna. Je mentionne un fait important. Après trois cycles électoraux en RDC, nous avons remarqué que la population congolaise a été totalement désagrégée à partir de l'intérieur. Ça veut dire que l'unité nationale a été complètement affaissée et par conséquent, il est nécessaire et impératif à ce stade qu'on puisse recréer une nation autour de nobles idéaux. Et au cœur de ces idéaux, il faut construire une nouvelle citoyenneté comme on le voit partout ailleurs. Lorsque vous regardez des Allemands, ils sont identiques dans leur attitude et puis dans leur vision du monde. Vous regardez les Français, c'est pareil, ils sont caractérisés par un chauvinisme exacerbé. Les Américains, par contre, par un isolationnisme du type américain. Lorsque vous faites un regard introspectif de ce que nous sommes, les Congolais, nous ne nous ressemblons pas. C'est un pays qui évolue quand un cas. C'est un pays qui est constamment bâillonné par non simplement des incursions militaires répétitives des armées étrangères, mais c'est un pays instable. Il faut recréer la nation, recréer l'État, et la base fondamentale, à mon avis, c'est un service militaire obligatoire qui va permettre aux jeunes d'avoir une vision commune de l'État.
Et vous estimez que vous estimez que cette démarche répond convenablement aux aspirations de cette jeunesse qui, au-delà de cette formation militaire, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais au-delà de cette formation militaire, cette jeunesse attend que l'État mette en place des conditions qui lui permettent, n'est-ce pas, d'avoir la possibilité d'opérer des choix en ce qui concerne son avenir. Vous avez évoqué les cas de la France, vous avez évoqué les cas de l'Allemagne, où on voit une sorte de synergie, n'est-ce pas, entre les parlementaires que vous êtes qui initient des lois et l'exécutif qui met en place, n'est-ce pas, les conditions pour permettre à cette jeunesse-là d'opérer des choix pour leur épanouissement, pour leur avenir. Est-ce que vous pensez que la démarche telle que vous l'amenez répond convenablement aux aspirations, aux multiples aspirations de cette jeunesse congolaise?
En réalité, le problème, c'est lequel? On peut vouloir bien créer des conditions d'emploi, on peut vouloir bien créer des conditions d'émergence, mais lorsqu'on n'a pas une identité culturelle, lorsqu'on n'a pas une vision du monde partagée, le pays va évoluer quand un cas. Je pense que c'est vraiment l'élément basique. Il va falloir que l'on puisse discuter sur ces approches minimales et que qu'il y ait une génération qui puisse porter cette vision. Et cette génération peut partir de celle qui va effectivement être incorporée dans le cadre des services militaires obligatoires. Et c'est à travers cette génération que les Congolais vont devoir imprimer une identité spécifique. Écoutez, il y a un savant qui dit que pour construire une nation, il faut qu'il y ait un principe des trois vœux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un vecteur, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Certainement vrai, nous travaillons en synergie avec l'exécutif dans le cadre des mises en œuvre de politiques publiques relatives aux emplois des jeunes, ainsi de suite. Ce qui est important d'abord, et ce qui est très fondamental, il va falloir d'abord qu'on puisse, nous, Congolais, qu'on puisse se mettre d'accord sur la vision du Congo, sur les projections d'avenir. Dans 50 ans, qu'est-ce que nous devenons? Quel est le type d'école pour nos enfants? Quel est le type d'université pour nos enfants? En fait, quel est le type d'infrastructure pour notre pays? Et tout ça, ça doit se discuter à travers une vision globale et partagée, qui doit être considérée comme un référentiel national. Et après la vision, effectivement, il faut qu'il y ait des vecteurs. Les vecteurs, à mon avis, ce sont des outils d'accompagnement. Ça peut être des outils techniques, mais aussi des outils humains. Et en ligne de mire, je considère comme outil humain la population jeune. Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que la jeunesse constitue pratiquement près de 70% de la population congolaise active. Donc si nous investissons dans cette jeunesse et que celle-ci vient à s'approprier de la nouvelle vision à créer et qu'il y a une volonté politique qui s'ensuit comme troisième vœu, je pense que les résultats escomptés seront atteints. Et à mon avis, ça va aller avec une vitesse vertigineuse. Parce qu'il n'est pas quand même sérieux qu'on puisse définir des politiques publiques ou qu'on puisse dégager des financements dans tel ou tel autre secteur et qu'au bout d'une année, à la fin, lors de la réédition des comptes, et qu'on vienne à se rendre compte que les budgets ou les affectations prévues n'ont pas été mises en exécution. Là, je parle principalement des financements qui ont été affectés pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes.
lors du budget passé. Et je peux vous avouer, ça fait très mal que ce budget, cette affectation, n'a été exécutée à l'ordre de 3%.
Voilà, il faut une vision globale comme vous le souhaitiez. Et vous préconisez les outils d'accompagnement. Justement, à ce sujet, comment vous appréciez la mise en place par le ministre de la Jeunesse, vous l'avez suivi, hein, qui est avec nous dans cette émission, le ministre Willy Kambalé, la mise en place des brigades agricoles et puis du fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Comment vous appréciez cela?
Bon, en réalité, le projet n'est pas blâmable, il est louable. Mais ma crainte, c'est que le projet puisse atterrir sur une terre non arable, comme par le passé. Bon, en fait, nous sommes un pays caractérisé par le foisonnement des projets, et au bout du compte, ces projets ne sont jamais réalisés. Donc, ce que je voudrais, dans le jeu du possible, que les ministres puissent accompagner effectivement la mise en œuvre de ces projets, de sorte que l'année prochaine, lorsqu'on reviendra, après évaluation, qu'on se dise effectivement, le pays a fait un saut vers l'avant. Sinon, c'est du supplice étatal, ça veut dire c'est de la peine perdue, et c'est pas différent de ce qu'on a vu sous Kabila, et c'est pas différent de ce qu'on a vu sous Mobutu, un foisonnement de projet, à la limite il n'y a pas d'exécution, et puis après ça produit des effets pervers. Il y a des personnalités politiques qui s'enrichissent derrière le projet, mais la vraie jeunesse n'en bénéficie pas, la vraie jeunesse n'est pas autonomisée, la vraie jeunesse n'est pas dotée des outils, la vraie jeunesse n'est pas accompagnée.
Merci Madame Liliane Iranga, présidente de la Fondation Liliane Iranga, une structure qui milite en faveur du genre, de la jeunesse en général et des jeunes des milieux défavorisés en particulier. L'institution d'une journée internationale dédiée à la jeunesse suffit-elle pour susciter de l'espoir dans cette jeunesse à travers, pas seulement en RDC, hein, à travers le monde, qui a l'impression, n'est-ce pas, que son avenir est les cadets des soucis des gouvernants. Est-ce que cette institution de cette journée-là suffit pour susciter de l'espoir dans cette jeunesse?
Merci pour la parole. Je dirais que l'institution de cette journée ne suffit pas. La jeunesse, vous voyez, elle rencontre des problèmes tous les jours. Elle a des problèmes au quotidien et ce sont des problèmes dont elle a besoin. Elle a besoin en fait qu'il y ait des solutions. Il y a plusieurs problèmes. Vous savez, dans le monde entier, les jeunes revendiquent tous les jours les besoins des démocraties, qui ne restent qu'un concept assez intellectuel, en fait, dans notre pays. Mais les vraies questions que nous, jeunes, nous posons, c'est est-ce que je vais pouvoir manger quelque chose? Vais-je sortir de chez moi en toute sécurité et y rentrer sans problème? Pourrais-je trouver un emploi après mes études? Qu'est-ce que je vais faire? Mais dans notre pays, ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous déplorons d'ailleurs beaucoup plus, c'est la manipulation de la jeunesse. Nous trouvons que la jeunesse, elle est instrumentalisée. On fait appel à la jeunesse que lorsque les intérêts de certaines personnes sont mis en danger, mais lorsque des problèmes qui touchent directement la jeunesse ont besoin des solutions, la personne s'y engage. Lorsqu'il faut donner des responsabilités, on le donne à d'autres personnes. Mais la jeunesse, elle est là, elle est prête à sortir. Elle va même parfois même jusqu'à perdre sa vie pour les intérêts de certaines personnes. Mais ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas à soutenir cette jeunesse, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être accompagnée. C'est une jeunesse qui a besoin d'être orientée, elle a besoin d'avoir des repères. Mais ce que nous voyons maintenant là, ce n'est pas quelque chose de louable en tout cas. La journée d'hier, j'ai vu ce qui s'est passé ici chez nous à Kinshasa, au Musée National. On a appris qu'il y aura un fonds pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est vrai, mais moi personnellement, j'aurais souhaité que cette journée-là se passe comme dans d'autres pays où le chef de l'État a échangé directement avec la jeunesse. Parce que même les autorités qui sont là ne connaissent pas les vrais problèmes de la jeunesse. C'est la jeunesse elle-même qui connaît exactement ce qu'elle vit. C'est la jeunesse elle-même qui peut exposer directement les problèmes qui lui touchent directement. Et ça, c'est quelque chose que normalement, c'est comme ça que ça devrait être fait. Mais bon, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On applaudit, on dit d'accord, courage, on va y croire. Mais les vrais problèmes de la population, voyez-vous, en 2018, lors des élections, les jeunes sont sortis, ils sont allés voter, parfois même sous la pluie, ils sont allés, ils avaient besoin des changements. C'est eux qui revendiquent leur besoin de démocratie. il donne la chance à certaines personnes de pouvoir être appelées un jour honorable, d'être un jour appelée l'appellation surtout que je préfère le plus, c'est représentant du peuple. Vous êtes représentant du peuple, mais ce qui fait que ces jeunes retombent encore dans le même piège, c'est parce que parfois on arrive à acheter sa conscience. Vu la situation sociale du pays qui ne s'améliore pas, on donne à un jeune un t-shirt, on lui donne un peu de riz et il pense que c'est ça le travail de cette personne. Or, le travail de la personne qui s'est dit députée, qui s'est dit représentant du peuple, c'est pouvoir élaborer et c'est pouvoir proposer, faire des propositions des lois qui vont améliorer la jeunesse, qui vont améliorer tout le pays. Donc vous voyez que nous, on a un sérieux problème. Juste une journée, ça ne suffit pas.
Madame Liane,
parler à la jeunesse tous les jours.
Voilà, dans votre fondation, vous avez comme vocation de favoriser la jeunesse en général et des jeunes, des milliers défavorisés en particulier. Et lorsqu'on vous suit, apparemment, votre approche, n'est-ce pas, c'est celle qui consiste à sensibiliser cette jeunesse afin qu'elle prenne conscience de son importance dans la société. Et vous pensez que ce travail sera-t-il efficace dès lors que, en face, c'est-à-dire les dirigeants politiques qui doivent mettre en place des politiques pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir, ne font absolument rien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi, en plus des jeunes, essayer de sensibiliser les hommes politiques pour qu'ils prennent à bras les corps, n'est-ce pas, les aspirations, les préoccupations de la jeunesse?
Bien évidemment, on a, par exemple, avec ce que nous, on a commencé à faire sur terrain, par exemple, comme démarche pour pouvoir rencontrer, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, pour pouvoir plaider pour une prise en charge effective des enfants, par exemple, qui sont en situation de rue, qui devient un fléau assez dangereux pour nous tous ici. Vous tous, vous roulez dans le véhicule, les chégués qui sont là, on peut te piquer ton téléphone, parfois toutes les personnes arrivent à avoir mal à cause de tout ce qui se passe. Donc là, ce n'est pas seulement que nous nous arrêtons à la jeunesse, effectivement, nous le faisons, mais nous allons aussi toucher aussi aux autorités. Nous leur disons que nous, jeunes, nous dépendons de vous. C'est vous qui avez le pouvoir, effectivement. Mais il ne faut pas seulement faire appel à nous que lorsque vos intérêts à vous sont menacés. Lorsque vous sentez que nous, par exemple, ceux qui sont même au Parlement, on leur dit non, lorsque vous êtes là, on a plus l'impression que ce sont les intérêts de vos partis, de vos origines politiques qui sont beaucoup plus en charge que non, nous, c'est que nous, la population, nous, jeunesse, nous voulons. Or, c'est nous, jeunes, effectivement, qui avons voté pour vous, qui vous avons donné la chance de pouvoir vous appeler un jour honorable représentant du peuple. Vous devriez normalement prendre en considération nos besoins. La brigade agricole dont j'ai entendu le ministre parler, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi ne pas toucher d'abord directement tout ce qui touche la population, la jeunesse directement? Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons l'éducation, nous avons parlé dernièrement de la gratuité de l'enseignement, qui est une très bonne chose, c'est vrai, mais les infrastructures scolaires, il n'y en a pas, la réhabilitation des infrastructures scolaires, il n'y en a pas. Lorsque vous allez visiter des écoles, vous voyez que jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui se mettent par terre pour suivre le cours. Comment voulez-vous que ces futurs ministres-là, ou bien ces futures autorités-là, puissent bien acquérir la matière pendant qu'ils se mettent par terre? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal et les autorités, normalement, doivent s'y impliquer.
Les attentes de la jeunesse ont toujours été énormes à l'endroit de l'État congolais et cela pourrait s'expliquer notamment par notre système éducatif. Hein. Nous avons été formatés, nous avons été formés de manière à ce que, à la fin de notre cursus, l'État puisse nous donner du travail. On n'a pas aidé, n'est-ce pas, les jeunes dans ces pays, les jeunes à pouvoir développer l'esprit et d'initiative. Vous avez suivi, monsieur le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, qui est en train d'explorer, n'est-ce pas, ces nouveaux terrains. Et qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant que fondation Liliane, pour aider ces ministres à pouvoir réussir, n'est-ce pas, dans cette initiative qu'il a prise?
Nous ne pouvons que l'encourager. C'est vrai que c'est bon de faire ça. Ce n'est pas aussi la faute de la jeunesse, c'est la faute des personnes qui dirigent. Parce que c'est eux qui ont fait croire à la jeunesse que tu peux réussir ta vie que lorsque tu es derrière un bureau. Ou bien tu ne peux être important à la société que lorsque tu es derrière un bureau. Lorsqu'un jeune doit pouvoir s'impliquer, travailler dans l'agriculture, celui qui est dans un bureau trouve qu'il est inférieur. Il trouve que non, que l'autre est inférieur parce que dans sa tête déjà, c'est déjà dit que non, celui qui réussit sa vie, c'est seulement celui qui est derrière un bureau. Or, ce n'est pas du tout le cas. Nous l'accompagnons, c'est vrai, c'est une très bonne chose que nous nous encourageons effectivement. Mais il faut vraiment faire beaucoup de travail, beaucoup sensibiliser la jeunesse et aussi savoir effectivement si ces projets-là, tous les jeunes vont en bénéficier.
Merci.
Ou bien si c'est seulement quelque chose que nous, on nous raconte pour nous donner des faux espoirs.
Merci, merci. Monsieur le ministre Billy Kambale, toutes les questions touchant à la jeunesse, c'est des questions qui intéressent l'opinion dans son ensemble. Hein. Il y a beaucoup de réactions. Vous allez réagir à ces points de vue de cet auditeur qui nous appelle depuis... la province de l'Omami.
Willy Kembe depuis Kabinda dans la province de l'Omami. Cette initiative du ministre est synonyme de l'incapacité du ministère de pouvoir encadrer les jeunes, car dit-on, quand les jeunes sont massacrés au lieu d'être sacrés, l'avenir de ce pays est en ruine. On comprend bien sa vision, les jeunes dans l'armée et les vieux au bureau. À ce niveau, notre pays sera le premier dans le monde où tous les jeunes sont des militaires. Est-ce que le ministre a pensé au nombre de groupes de milices qui pourraient naître après cette formation au cas où ils ne sont pas engagés? La RDC compte 26 provinces. Dans ma province de l'Omani, il n'y a aucune réalisation dont le ministre globalise. Les jeunes peuvent contribuer au développement de la RDC s'ils sont encadrés. Un proverbe africain dit « Les vieux se réchauffent avec les doigts coupés à la jeunesse ». Quand ils ne veulent pas nous encadrer, nous orienter, nous montrer le bon chemin, ils ne savent pas que demain c'est un autre jour, lequel ils auront besoin de l'aide.
Monsieur le ministre, vous avez compris que vous avez du pain sous la planche. Hein? Vous devez expliciter, n'est-ce pas, votre projet sur la formation militaire obligatoire à tous les jeunes. Hein? Est-ce que ces projets tiennent compte des particularités de la RDC? Hein? On a évoqué la multiplicité des groupes armés. Et on a ce phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur qui nous appelle depuis l'Omami?
Merci Guy Maté. Moi je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de cette proposition de loi. Nous ne sommes pas en train d'initier les services militaires obligatoires pour que tous les jeunes entrent dans l'armée. J'ai dit que c'est quand vous terminez l'école secondaire, avant de commencer l'université, vous devez faire le service militaire obligatoire. Quels en sont les objectifs? Un, objectif premier, c'est d'abord un problème de citoyenneté. J'ai dit hier dans mon discours que notre pays est plongé dans les mentalités qui ont détruit complètement le moi congolais. Depuis des années et des années, il y a des mentalités ancrées qu'il faut extirper de notre société. Et le service militaire est l'occasion pour les jeunes terreaux formatés pour le vivre ensemble, tel qu'il a dit l'honorable Mbao. Il faut aujourd'hui créer un nouveau type de Congolais. Même si vous amenez des milliards de dollars dans un pays où les mentalités, où le vivre ensemble n'est pas enseigné, vous n'allez pas réussir. Le premier objectif de ce service militaire obligatoire est d'abord d'ordre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Deuxième objectif, et la raison, notre pays est constitué des milices. Mais il faut qu'il aille très loin. Notre armée aujourd'hui, quelle en est l'image? C'est juste une juxtaposition incongrue des groupes armés, des milices et des anciens belligérants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à maîtriser la sécurité de notre pays, parce que tous ces gens qui sont dans l'armée, ce sont des gens qui viennent des milieux différents et n'ont pas la même idéologie. Voilà pourquoi nous avons eu des revers par rapport à cela. Donc il faut recréer aujourd'hui une armée qui va égorger de l'élite. Savez-vous que les grandes inventions aux États-Unis d'Amérique, par exemple, sont venues de l'armée? Et l'intervention de notre ami Willy de l'Omami démontre à suffisance que nous n'avons pas la connaissance de ce que doit être l'État dans sa forme originale.
Mais aussi, ça, monsieur le ministre, mais aussi à travers son intervention, on sent, n'est-ce pas, ces besoins d'être suffisamment informés sur les initiatives que le gouvernement prend au sujet de la jeunesse. Hein. Il faut un travail, n'est-ce pas, de vulgarisation de tous les textes que vous êtes en train de proposer pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir.
Oui, d'accord, je comprends et vous avez totalement raison. C'est ici le lieu de remercier Radio Okapi pour cette occasion qui nous est offerte pour expliquer et expliciter tout. tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Lorsque madame dit que les politiciens ne sont là que pour manipuler la jeunesse, je voudrais dire que cette assertion doit être relativisée. Il y a 2 ans, les gens pouvaient dire que mon parti politique était en train de m'utiliser. Mais aujourd'hui, je suis devenu ministre grâce à la détermination, la conviction. Donc les jeunes doivent comprendre aussi que rien ne leur sera donné
Merci.
En cadeau.
Merci,
et moi, je suis là pour les conscientiser et leur faire savoir que notre seule manière de gagner, c'est d'être conscient et d'agir.
Merci. Merci, maître Daniel Mbao. Vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de Lubumbashi.
Bastien Kenga, dans la province du Haut-Katanga, politiquement à Lubumbashi. La République démocratique du Congo vit déjà dans une inflation des projets et des lois par manque de principes de continuité des affaires de l'État. Chaque ministre vient avec ses projets teintés de bonnes intentions, en réalité de zéro réalisation. Comment compter sur les jeunes qui sont snobés dans les institutions et dans la vie politique en général, utilisés seulement pour les fins des hommes politiques? Le pays n'avancerait pas si tout le monde entre dans l'armée. Il suffit seulement de renforcer les cours de civisme de l'école primaire à l'université pour cultiver le patriotisme sur tous les plans de la vie de l'homme congolais. Avec la mentalité qu'a l'homme congolais pour le moment, envisager une telle formation militaire obligatoire serait une création d'une jungle.
Maître Daniel Mbao, vous êtes interpellé, n'est-ce pas?
Je comprends bien la peur, mais sinon, ça vaut la peine qu'il y ait un civisme constitutionnel issu des cures d'enseignement pour permettre à la population congolaise de s'approprier de cette nouvelle vision qui est très importante et qui peut, dans le mieux possible, permettre à la République, comme l'a dit si bien le ministre Kambale, à construire une nouvelle citoyenneté. En réalité, le Congo, c'est un État qui est habité par des peuplades. Des peuplades qui n'ont pas quelque chose en réalité culturel de commun. Et il est difficile dans le contexte actuel qu'on puisse décoller ensemble lorsqu'on ne se met pas d'accord sur les priorités de départ. Parce qu'en réalité, un État peut se développer s'il y a un effort conscient, collectif, qui pour repenser la société à partir des priorités que l'on a soi-même établies. Et à mon avis, les services militaires obligatoires, c'est un créneau à partir duquel le peuple congolais ou le gouvernement congolais aura la possibilité de communiquer à la jeunesse avec la possibilité de gérer les pays d'État, sa philosophie d'État. Ça sera quand même une occasion pour nous de nous arrêter quelque part et de nous poser sur des questions existentielles. Qui sommes-nous? Et comment avons-nous été créés? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes la résultante d'une artificialité. La RDC, c'est une fille incestueuse de la communauté internationale. Lorsqu'on n'intègre pas cette zone, par exemple, internationale, dans le cadre d'un service militaire obligatoire, on ne saura pas évaluer l'importance d'assurer la défense de l'intégrité territoriale de son pays. Et c'est vrai aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous sommes un État fragile. Et si on y prend garde et qu'on ne prend pas des mesures de protection, des mesures de défense interne, le pays va disparaître. Parce qu'en réalité, un État reproduit toujours un cycle biologique. Un État naît, il se développe, mais il peut aussi disparaître. L'histoire des États anciens, qu'il y a eu des États qui ont existé par le passé, qui ont disparu, hein. Et c'est rare de voir un État qui disparaît et qui renaît. Donc nous qui avons aujourd'hui la manette du pouvoir, nous avons la responsabilité de perpétuer une vision nouvelle qui va assurer la Merci. Continuité de l'État et qui va peut-être donner la possibilité aux Congolais de produire une nouvelle identité sur base de laquelle nous allons définir les axes prioritaires de notre développement. Donc, il faut absolument pour le Congolais d'identifier les besoins fondamentaux, de construire une nouvelle citoyenneté et de repartir sur de nouvelles bases parce que Luc Kambale l'a dit, le ministre, que nous avons été longtemps caractérisés par une culture de paupérisation, une culture de patrimonialisation du pouvoir, une culture de corruption. Alors, on peut bien créer des conditions d'emploi pour les jeunes. Lorsqu'on ne détricote pas dans le mental, dans le système de pensée de l'homme congolais, cette culture tatocinée qui a fondé l'État depuis 60 ans au jour, on va faire les sous-places.
Merci. Donc, on a compris qu'il faut, il faut travailler sur le mental de la jeunesse congolaise. Madame Liliane Iranga, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Goma au Nord Kivu.
Depuis la ville de Gomo. Les initiatives sont encourageantes, mais comment voulez-vous que les jeunes puissent contribuer au développement du pays lorsqu'ils ne sont pas pour certains recrutés dans des entreprises publiques et d'autres ne sont pas assistés dans leurs initiatives? En tout cas, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Mais elle ne peut pas faire de maigres moyens ou parvient à finir les études pour se retrouver par après sans emploi. Vous imaginez la suite. Qu'il y ait plus d'entreprises est en force de la nation et moteur du développement, que la jeunesse soit toujours mise en compte.
Oui, madame Liliane, votre réaction?
Par rapport à la préoccupation du monsieur, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai que plusieurs jeunes dans notre pays voudraient pouvoir intégrer les institutions publiques. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais nous avons beaucoup plus demandé à la jeunesse de pouvoir prendre d'abord conscience elle-même, de ne pas se laisser instrumentaliser, manipuler, parce que son devenir ne dépend que de lui. On a demandé ceci aux jeunes, de pouvoir d'abord se connaître soi-même, de vouloir savoir déjà ce qu'eux, ils peuvent devenir, et c'est par rapport aux choix qu'eux-mêmes voudront faire qu'ils vont pouvoir revendiquer leurs droits. Par exemple, l'emploi, oui, ça c'est leur droit, et nous devrions demander normalement à tous ceux qui nous dirigent la création d'emplois, c'est une très bonne chose, c'est ça qui va nous permettre à nous jeunes de pouvoir nous sentir utiles dans la société. On ne va pas seulement rester là, bras croisés, qu'on nous appelle seulement lorsque les intérêts sont mis en danger, ou bien lorsque les intérêts de certains partis politiques, les idéaux ne se mettent pas d'accord, qu'on fait appel à la jeunesse pour sortir dans la rue et parfois même arriver à perdre même notre propre vie. On ne va pas s'arrêter là. On va pouvoir continuer à parler aux jeunes, c'est vrai, mais aussi demander à l'État congolais de pouvoir s'impliquer pour le développement de la jeunesse, parce que eux, s'ils sont là, c'est grâce à nous, population, c'est grâce à nous, jeunesse. On leur a demandé, même la proposition de loi dont je suis en train d'entendre parler, que non, ils doivent suivre une formation militaire. Non, mais attendez, comment pourriez-vous demander à des jeunes qui sont dans la pauvreté, ils étudient dans des difficultés, que ces jeunes-là suivent une formation militaire? Que voulez-vous gagner? Quel résultat attendez-vous à la fin?
Madame
Lorsque vous faites le tour de la ville de Kinshasa, vous trouvez qu'il y a de l'alcool fait maison, que des jeunes de 15 ans, des jeunes de 14 ans prennent et il est vendu légalement comme ça, pendant que ce sont des alcools faits pas de bonne qualité, et puis ces jeunes-là finissent par crier ils se mettent jusqu'à commettre des bavures.
Madame
Comment
Liliane,
voulez-vous proposer une chose pareille?
Nous sommes à la fin de la mission, nous allons conclure. Et donc, pour vous, pour que les jeunes puissent participer, n'est-ce pas, puissent contribuer au développement de la RDC, il faut que ces jeunes commencent par prendre conscience, n'est-ce pas, de leur importance dans la société. Et il faut aussi que du côté de l'État, qu'il y ait une réelle implication dans les initiatives de la jeunesse. Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme conclusion?
La seule conclusion que je peux donner, c'est que les jeunes doivent exactement prendre conscience, comme vous l'avez dit. Ils doivent savoir, parce que s'ils se connaissent eux-mêmes, ils ne vont pas se laisser manipuler, ils ne vont pas se laisser instrumentaliser, ils ne vont pas se laisser être juste de marche-pied de certaines personnes. Mais lorsqu'il faut donner des responsabilités, lorsqu'il faut réfléchir aux questions qui les touchent directement, c'est d'autres personnes qu'on prend et eux, ils sont carrément manipulés et mis de côté.
Merci, Monsieur le ministre Billy Kamalé. Votre conclusion?
Oui, ma conclusion, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de pleurnicher. Les défis du millénaire qui sont devant nous doivent être affrontés avec beaucoup de courage. Quand nous disons que nous allons initier une loi instituant les services militaires obligatoires, il s'agit pas de transformer tous les jeunes Congolais en militaires, mais il s'agit d'un processus de formatage et d'extirpation de toute une mentalité qui
Merci,
est
monsieur
difficile
ministre.
Dans notre pays pour former un nouveau type des Congolais.
Merci. Maître Daniel Mbao, votre conclusion?
Bon, ma conclusion, c'est de dire que l'Italie a ouvert plusieurs axes de formation. Il y a ce service obligatoire qui est important, mais aussi l'État doit asseoir l'école, parce que le problème d'emploi, c'est d'abord un problème d'école. il faut réformer le système d'enseignement qui n'est pas intégral et qui n'est pas non plus compétitif.
Merci. Merci d'avoir participé à cette émission, Monsieur Billy Kambale, Maître Daniel Mbao et Madame Liliane Iranga. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était la technique, à Kelly Nkute et Dona Madimba qui l'ont réalisé sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.